Le Rubens volé de Jacques Futrelle. Quand il eut gagné 50 millions de dollars dans les lubrifiants, Matthew Kell se mit à encourager les beaux-arts. Quoi de plus facile? N'avait-il pas l'argent et, l'Europe, les vieux maîtres? Pour effectuer ses achats, il suivit un plan très simple. Puisque l'énorme galerie de sa demeure de marbre offrait une superficie d'environ 5000 pieds carrés à couvrir, il acheta 5000 pieds carrés d'œuvres d'art. Il avait un petit nombre de bonnes toiles et quelques-unes fort acceptables. Mais l'ensemble était franchement mauvais. Le joyau de la collection était un Rubens qu'il avait trouvé à Rome et payé 50 000 $. À peine eut-il complété sa collection que Kell décida de faire faire quelques aménagements dans son immense galerie. Les tableaux furent décrochés puis entassés face au mur dans l'énorme salle de bal. Pendant les travaux, Kell et sa famille s'installèrent dans un hôtel du voisinage. Ce fut là que Kell rencontra Jules de Lesseps. Ce dernier était un Français type, à l'esprit délié, nerveux, et dont la conversation ne roulait que sur toutes les manifestations de la beauté. Il confia bientôt à Kell que non seulement il peignait, mais qu'il s'y connaissait en art. Fier de ses richesses, Kell se donna beaucoup de mal pour inciter de Lesseps à venir visiter sa collection. La présentation des tableaux eut lieu dans la salle de bal. Levant une œuvre de qualité, le Français ne dissimulait pas le plaisir qu'il prenait à la contempler. Certaines toiles prêtaient à sourire, mais il le faisait avec politesse. Kell prit le précieux Rubens entre ses mains pour le présenter à de Lesseps. C'était une Madone à l'enfant, un de ces chefs-d'œuvre dont les siècles n'altèrent ni la beauté ni l'éclat. Comme le Français ne manifestait aucun enthousiasme particulier pour cette toile, Kell ne cacha pas sa déception. « Comment? Mais c'est un Rubens » s'exclama-t-il. « Je le vois bien, » répondit de Lesseps. « Il me coûte 50 000 $. Il vaut probablement davantage. » Et le Français se détourna en haussant les épaules. Kell le regardait dépité. Se pouvait-il que de Lesseps ne comprît pas qu'il s'agissait d'un Rubens et que Rubens était un peintre célèbre? Peut-être n'avait-il pas saisi le chiffre de 50 000 $ qu'il lui avait donné. Kell était trop habitué à voir les gens hocher la tête et ouvrir de grands yeux lorsqu'il parlait de 50 000 $. Aussi bien il ajouta « Vous n'aimez pas ça ?»« Beaucoup, » répliqua de Lesseps. « Mais j'avais déjà vu cette toile à Rome, une semaine ou deux avant que vous ne l'achetiez. » Ayant fouillé parmi les toiles, ils en sortirent un Whistler qu'ils se mirent à examiner. C'était une aquarelle de la fameuse série représentant la Tamise. De Lesseps paraissait ravi, et son regard allait de l'aquarelle au Rubens, comme s'il établissait une comparaison entre l'œuvre moderne au dessin exquis et la technique magistrale de l'ancienne. Kell se méprit sur son silence. « Je ne suis pas emballé par cette aquarelle, » expliqua-t-il, comme s'il cherchait à s'excuser de la posséder. « C'est un Whistler, il m'a coûté 5 000 $. J'ai pensé que je devais avoir ça dans ma collection. Mais ce n'est pas le genre de tableau que j'aime. Qu'en pensez-vous ? » « Je le trouve magnifique, » répliqua le Français avec enthousiasme. « C'est la quintessence de l'œuvre de Whistler, le fin du fin. » Puis, se tournant vers Kell, il ajouta « Je me demande s'il me serait possible d'en faire une copie. J'ai quelques dispositions pour la peinture et j'imagine que je me tirerai de cela honorablement. » Kell se sentit flatté. De minute en minute, le tableau prenait à ses yeux plus de valeur. « Certainement, » répliqua-t-il, « je le ferai envoyer à votre hôtel et vous pourrez… »« Non, non !» trancha vivement de Lesseps. « Je ne voudrais pas assumer la responsabilité de garder ce tableau. Il y a toujours des risques d'incendie. Mais si vous m'autorisiez à venir ici, cette pièce est vaste, claire et aérée au surplus, elle est calme. »« Faites comme vous voudrez, » concéda Kell, magnanime. « Je pensais seulement que l'autre solution eût été plus commode pour vous. » De Lesseps, posant la main sur le bras du millionnaire, ajouta d'un ton pénétré « Mon cher ami, si ces tableaux étaient à moi, je ne me soucierais nullement d'aider qui que ce fût pour qu'ils en aient la jouissance. Telle qu'elle est, j'imagine que cette collection vous coûte 687 000 $, répondit fièrement Kell sans se faire prier. et naturellement, ils doivent être sérieusement gardés dans votre maison pendant votre absence. J'ai environ 20 domestiques chez moi pendant que les ouvriers font les travaux, dit-elle, et 3 d'entre eux ne font rien d'autre que de surveiller cette pièce. Il n'y a pas d'autre porte pour entrer ou sortir que celle par laquelle nous sommes venus, et les autres sont fermées à clé et barrées. Oh, nul ne peut entrer ici sans ma permission ou sans un de mes ordres écrits. Non, croyez-moi, monsieur, il est impossible de sortir quoi que ce soit de cette pièce. Excellent, excellent, fit de la Seppe avec admiration. Puis, avec un léger sourire, il ajouta, je crains de ne pas avoir suffisamment fait crédit à l'homme d'affaires prudent et avisé que vous êtes. Et se tournant vers la collection qu'il parcourut d'un regard distrait, pourtant, un voleur astucieux, insinua-t-il, pourrait découper une toile de valeur au ras du cadre, le Rubens par exemple, la rouler, puis se sauver en la dissimulant sous son veston, qu'elle se mit à rire en signe de dénégation. 2 jours plus tard, de la Seppe, se trouvant à l'hôtel du millionnaire, revint sur son projet de copier le Whistler. Comme qu'elle lui proposait de l'accompagner jusqu'à sa demeure pour l'installer et assister à la mise en route de l'œuvre, de la Seppe le remercia chaleureusement. Ils s'arrêtèrent à la porte de la salle de bal. « Jennings, dit-elle au domestique en livrée, voici monsieur de la Seppe. Il sera libre d'aller et venir à sa guise. Il a l'intention de travailler dans la salle de bal. Veillez à ce qu'il ne soit pas dérangé. » De la Seppe remarqua que le Rubens était négligemment posé contre d'autres tableaux avec la sainte face de la Madone tournée vers eux. « Réellement, monsieur Kell, protesta-t-il, ce tableau a trop de valeur pour qu'on le laisse traîner ainsi. Demandez donc à vos domestiques de m'apporter de la toile d'emballage pour que je l'enveloppe. Je le mettrai sur la table, loin du sol. Pensez donc s'il y avait des souris. » Kell le remercia, puis donna les ordres nécessaires. Finalement, le tableau ayant été soigneusement enveloppé, il fut placé hors d'atteinte et de la Seppe se mit en devoir de disposer son chevalet, son papier, son tabouret, en un mot, toutes ses affaires. À peine était-il installé que Kell le quitta. 3 jours plus tard, quand il revint, l'artiste était toujours au travail. « Je viens de faire un petit tour pour voir où en sont les travaux, » expliqua-t-il. « Vraisemblablement, ils seront terminés la semaine prochaine. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » dit de la Seppe. « J'ai presque fini. Je n'ai pas perdu mon temps. » Il tourna le chevalet vers Kell. Le regard du millionnaire allait de la copie à l'original, posée sur une chaise toute proche, et l'expression de ses yeux trahissait la vive admiration qu'il éprouvait pour le talent de l'artiste. « C'est magnifique » s'exclama-t-il. « Je ne vois pas de différence entre les 2 toiles, et pourtant j'imagine que vous n'exigeriez pas 5 000 $ de la vôtre, hein ?» À ce moment-là, ils n'échangèrent guère d'autres paroles. Pendant 1 heure ou 2, Kell parcourut la maison, puis il revint dans la salle de bal où de la Seppe rassemblait ses affaires, et ils prirent ensemble le chemin de l'hôtel. Une semaine plus tard, les ouvriers ayant disparu après l'achèvement des travaux, de la Seppe s'offrit pour aider à suspendre les toiles. Kell, trop heureux d'accepter cette aimable proposition, le chargea entièrement de la besogne. Ce fut dès la première après-midi consacrée à ce travail que de la Seppe, bavardant joyeusement avec Kell, défit la toile d'emballage qui contenait le précieux Rubens. Il s'arrêta net, poussant une exclamation consternée. Plus de tableau. Le cadre qu'il avait contenu était vide. Une étroite bande de toile subsistait le long du bord intérieur. Cela prouvait qu'on s'était servi d'un canif pour découper le tableau. Tous ces faits furent rapportés au professeur Augustus SFX van Dusen, surnommé la machine à penser. Ce fut 1 jour ou 2 plus tard que Kell se précipita dans le bureau du détective Mallory du quartier général de la police pour déclarer qu'on lui avait volé son Rubens. Frappant violemment du poing sur le bureau du détective, il se mit à hurler « Je l'avais payé 50 000 $. Pourquoi ne faites-vous rien? Pourquoi restez-vous là, sur votre chaise, à me regarder ?»« Ne vous énervez pas, monsieur Kell, » conseilla le détective. « Je vais immédiatement mettre mes hommes sur cette affaire pour qu'ils retrouvent le... Qu'est-ce que c'est, au fait, un Rubens ?»« C'est un tableau !» hurla Kell. « Un morceau de toile, avec de la peinture, dessus. et ça m'a coûté $50,000. C'est ça que vous ne devez pas oublier. » Ainsi, tout l'appareil de la police fut mis en branle pour retrouver le tableau. Et bien entendu, l'affaire n'échappa pas à l'œil vigilant du reporter Hutchinson Hatch. Dès qu'il eut pris quelques renseignements sur les conditions dans lesquelles le tableau avait disparu, il se fit annoncer chez De Lacep, qu'il trouva dans un état de surexcitation voisin de l'hystérie. Comme le reporter lui expliquait l'objet de sa visite, il se répandit en un torrent de paroles. « Mon Dieu, c'est infâme! Que puis-je faire? Je suis resté seul dans la pièce pendant plusieurs jours. Et dire que j'ai été le seul à me donner quelque peine pour protéger le tableau. Et voilà qu'il a disparu. La perte est irréparable. Que puis-je faire ?» Hatch, n'ayant aucun conseil à lui donner sur la conduite à tenir, le laissa parler. « Si je comprends bien, monsieur De Lacep, l'interrompit-il enfin, pendant la durée de votre travail, personne d'autre que vous et monsieur Kell n'est entré dans la pièce. Personne. » Et M. Kell a dit que vous faisiez une copie d'une célèbre aquarelle. Est-ce exact ?
Oui, une vue de la Tamise par Whistler, répondit-il. La voilà au-dessus de la cheminée.
Hatch jeta un coup d'œil admiratif au tableau. C'était une copie remarquable, caractérisée par la légèreté de touche d'un artiste fort habile. De Lacep vit à l'expression du visiteur que ce dernier l'admirait.
Ce n'est pas trop mauvais, dit-il avec modestie, je suis un élève de Carolus Durand.
Tous les éléments de l'affaire et ce petit renseignement supplémentaire, qui parut négligeable aux journalistes, furent portés à la connaissance de la machine à penser. Cet homme distingué écouta l'exposé d'un bout à l'autre, sans faire le moindre commentaire. « Quels sont ceux qui pénétrèrent dans la pièce ? » demanda-t-il enfin. « C'est précisément ce que la police est en train d'établir, » dit Hutchinson Hatch. Il y a environ une vingtaine de domestiques dans la maison, et je suppose que malgré la sévérité des consignes de Kell, il y eut un peu de flottement dans leur application.
Naturellement, cela rend le problème plus difficile à résoudre, dit la machine à penser de cette voix perpétuellement irritée qui était une de ses caractéristiques. Il est sans doute préférable que nous allions chez M. Kell pour y faire notre enquête.
Kell les reçut avec la froideur que les gens riches témoignent généralement aux représentants de la presse. Quelque peu étonné par la petite stature du savant, il le détaillait pendant que ce dernier lui expliquait l'objet de leur visite.
« Je ne pense pas que vous soyez homme à tirer les choses au clair, » leur affirma Kell. « J'ai remis l'affaire entre les mains de détectives professionnels.
« Monsieur Mallory est-il là en ce moment ?» demanda la machine à penser sèchement.
« Oui, il est là-haut, à l'étage des domestiques.
« Pouvons-nous voir la pièce où le tableau fut volé ?» demanda le savant, du ton suave que Hatch lui connaissait bien. D'un signe de la main, Kell leur fit signe qu'il était d'accord et il les introduisit lui-même dans la salle de bal où les tableaux avaient été entassés. Du centre de la pièce, la machine à penser examinait l'aspect des lieux. Les fenêtres étaient hautes. Une demi-douzaine de portes ouvraient sur le vestibule, la serre et sur des recoins paisibles de la maison, offrant d'innombrables possibilités d'accès. Après cette longue inspection, la machine à penser se dirigea vers le cadre, duquel le Rubens avait été enlevé. Il l'examina longuement. Kell ne cachait pas son impatience. Finalement, le savant se tourna vers lui.
« Vous connaissez bien monsieur De Lacep ?»«
Je ne le connais que depuis un mois ou deux. Pourquoi ? Vous a-t-il apporté des lettres de recommandation, ou l'avez-vous rencontré par hasard ?» Kell le regarda sans aménité.
« Ne mêlez donc pas mes affaires personnelles à la question. Monsieur De Lacep est un parfait honnête homme, et c'est certainement lui le dernier que j'accuserai de la disparition du tableau. »
C'est généralement comme cela que les gens réagissent à l'égard du coupable, remarqua la machine à penser aigrement.
« Sa copie du tableau de Whistler était-elle bonne ?»«
Je n'ai jamais vu l'original, » répliqua Hatch. « Mais l'exécution de la copie était superbe. Peut-être, monsieur Kell, ne verra-t-il pas d'inconvénient à ce que nous jetions un petit coup d'œil sur...
« Naturellement, non, » dit Kell. « Venez dans la galerie. »
Hatch soumit le tableau à un examen minutieux. « La copie est presque parfaite. » Tel fut le verdict. Naturellement,
Ne pouvant pas confronter les deux tableaux, il m'est difficile de me prononcer d'une façon définitive. Mais le travail de Lesseps est certainement magnifique. Les rideaux d'une large porte située presque en face d'eux s'écartèrent brusquement et le détective Mallory entra. Il portait quelque chose à la main, mais les voyant, il dissimula l'objet. Son visage avait une expression de triomphe non dissimulée. « Ah, professeur, nous nous rencontrons enfin !» Ce journaliste ici et son ami sont en train d'essayer de mêler de Lesseps à cette affaire, fit Kell, se plaignant au détective. Je ne veux pas de cela. Quand il sortira d'ici, vous verrez qu'il est capable d'écrire n'importe quoi. Ils font toujours la même chose. La machine à penser le fixa un instant sans sourciller, puis étendant la main vers Mallory, où l'avez-vous trouvé ? Demanda-t-il. Désolé de vous causer une petite déception, professeur. Dit le détective d'un ton sarcastique. Mais pour une fois, vous avez du retard. Et il examina l'objet qu'il tenait derrière son dos. Voilà votre tableau, monsieur Kell. Kell eut le souffle coupé de surprise, et tenant la toile à pleine main, il se mit à l'examiner. Magnifique, dit-il au détective. Je veillerai à ce que vous n'y perdiez rien. Cette chose m'a coûté 50 000 $. La machine à penser se pencha pour voir de plus près l'angle supérieur droit de la toile. « Où l'avez-vous trouvé ? » demanda-t-il de nouveau. « Roulé, très serré au fond d'une malle, dans la chambre d'un des domestiques, » expliqua Mallory. « Il se nomme Jennix. Il vient d'être arrêté. »«
Jennix ? » s'exclama Kell. « Il y a des années qu'il est à mon service. »
« A-t-il avoué ? » demanda l'homme de science imperturbablement.
« Naturellement, non, » dit Mallory.
Il dit que d'autres domestiques doivent l'avoir caché là. La machine à penser fit un signe de tête à Hutch. « Je pense et c'est tout, » conclut-il. « Je vous félicite, monsieur Mallory, d'avoir liquidé cette affaire aussi vite et d'une manière aussi satisfaisante. » 10 minutes plus tard, ils quittèrent la maison et prirent un taxi pour se rendre chez le savant. Hutch était désolé de l'issue rapide et inattendue de l'affaire. Il semble que Mallory fasse preuve à l'occasion d'une lueur d'intelligence.
« Je ne m'en suis jamais aperçu, » remarqua la machine à penser, d'un ton bourru.
« Mais il a trouvé le tableau, » insista Hutch. « Évidemment, il l'a trouvé. C'est pour qu'il le trouve qu'il avait été placé là. »«
Pour qu'il le trouve ?» répéta le journaliste. « Jennix ne l'a donc pas volé ?»«
S'il l'a fait, c'est un idiot. »«
Bon, mais s'il ne l'a pas volé, qui l'a volé ?»«
De Lesseps. »
« De Lesseps, » reprit Hutch, « pourquoi diable aurait-il volé un tableau de 50 000 $ pour le mettre dans la malle d'un domestique et pour qu'on le trouve précisément là ?»
La machine à penser pivota sur son siège et le regarda froidement pendant quelques secondes. « Par moments, monsieur Hutch, votre stupidité me confond. Je puis admettre qu'elle atteigne un pareil degré chez un homme comme Mallory. » Mais je vous ai toujours pris pour un homme astucieux et à l'esprit vif. »
Hutch sourit du reproche. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait. Il ne fut plus question de l'affaire qui les préoccupait jusqu'à ce qu'ils eussent atteint la maison de la machine à penser.
« La seule question qui me tracasse, dit enfin l'homme de science, est de savoir si je devrais me donner la peine de faire rentrer Kell en possession de son tableau. Il est parfaitement satisfait, il ne se rendra probablement jamais compte de la différence. Aussi, soudain, Hutch entrevit la vérité. «
Grand Dieu » s'exclama-t-il. « Cela voudrait dire que le tableau trouvé par Mallory était une copie de l'original, » trancha le professeur. « Personnellement, je n'y connais rien en matière d'art, donc ce n'est point par suite d'un examen approfondi que j'affirme que c'est une copie, mais parce que c'est l'évidence même. » Quand l'original fut découpé du cadre, le canif dévia légèrement à l'angle droit supérieur. C'est la toile restant attachée au cadre qui m'a révélé cela. Or, comme le tableau trouvé par M. Mallory ne correspond pas à cet égard à la toile du cadre, la conclusion s'impose.
Et de Lesseps à l'original ?
De Lesseps à l'original. Comment se l'est-il procuré ? Il y avait bien des moyens de procéder. Il aurait pu le rouler et le glisser sous son veston. Il aurait pu avoir un comparse. Mais je ne pense pas qu'il ait été séduit par aucun des moyens que les voleurs emploient d'ordinaire.
Si j'en juge par l'ensemble de l'affaire, je suis obligé de le tenir pour un homme intelligent. Voyez, par exemple, il a demandé la permission de copier le Whistler qui est, vous l'avez remarqué, de la même dimension que le Rubens. Elle lui fut accordée. Ensuite, il exécuta son travail pratiquement sans aucune surveillance, mais sous la perpétuelle menace d'une visite inattendue de M. Kell. 3 jours lui furent nécessaires pour copier le tableau, dit-il. Il est donc resté dans la pièce pendant tout ce temps. Il savait que M. Kell n'avait pas la moindre idée en matière d'art. Mettant à profit toutes ces circonstances, quoi de plus simple que de copier le Rubens à l'huile? Il dut, selon toute vraisemblance, le sortir du cadre immédiatement après l'avoir dissimulé dans la toile d'emballage et le garder près de lui, avec la possibilité de le cacher promptement si on l'avait dérangé. Souvenez-vous que le tableau est estimé 50 000 $ et qu'une pareille somme vaut que l'on se donne du mal. De La Sape est un artiste, nous savons cela, et comme il avait affaire à un homme totalement ignorant des questions d'art, que risquait-il? Son idée maîtresse fut toujours d'utiliser la copie du Rubens comme tableau de remplacement, après qu'il aurait pris le large avec l'original. Nous pouvons mesurer son audace si nous songeons qu'il s'est permis de découvrir le vol après avoir offert son aide à M. Kell pour remettre les toiles en place dans la galerie. Je ne sais pas comment il a pu s'y prendre pour dissimuler le tableau dans la malle de Jeggins. On peut imaginer toutes sortes de moyens. Pendant 1 minute, il se renversa dans sa chaise, sans parler, le bout des doigts joints et les yeux fixés au plafond. « Mais comment a-t-il bien pu sortir le tableau de chez Kell ?» demanda Hatch. « Il l'a probablement sorti sous son bras, le jour même où il quitta la maison de M. Kell, et en compagnie de ce dernier. » Telle fut la stupéfiante réponse. Hatch le regardait abasourdi. Quelques instants plus tard, l'homme de science se leva pour passer dans la pièce voisine et la sonnerie du téléphone tinta légèrement. Bientôt, ayant rejoint Hatch, il prit son chapeau et les deux hommes sortirent ensemble. Ils firent remettre leurs cartes à De La Sape qui était chez lui et qui les reçut. Pendant 10 bonnes minutes, la conversation roula sur l'affaire pendant que le regard du savant se livrait à de minutieuses investigations à travers la pièce. Quelqu'un frappa soudainement. « C'est le détective Mallory, monsieur Hatch, » fit remarquer la machine à penser. « Ouvrez-lui la porte. » De La Sape parut troublé un court instant, mais il se ressaisit très vite. Le regard de Mallory était chargé d'interrogations. « Mallory, » commença la machine à penser, posément, « j'aimerais attirer votre attention sur cette copie du tableau de Whistler par M. Kell. Elle est là, au-dessus de la cheminée. Ne la trouvez-vous pas excellente? Vous avez vu l'original. » Mallory fit entendre un grognement. Le visage de De La Sape, au lieu d'exprimer de la satisfaction, pâlit et ses mains se crispèrent. De nouveau, il se ressaisit pour sourire. La beauté de ce tableau n'est pas seulement due au fait qu'il est une copie fidèle de l'original, continua l'homme de science, mais aussi au fait qu'il fut peint dans d'extraordinaires circonstances. Par exemple, je me demande si vous savez, monsieur Mallory, qu'il est possible de mélanger de la colle, du mastic et divers autres ingrédients, et d'en faire une pâte pouvant masquer une peinture à l'huile. Or, cette pâte est une préparation rêvée pour la peinture à l'aquarelle. » Il marqua un temps d'arrêt pendant lequel les 3 hommes le regardèrent en silence, mais agités d'émotions diverses. « Cette aquarelle, cette copie de Whistler, continua l'homme de science posément, est peinte sur un enduit semblable à celui que je viens de décrire. Cet enduit couvre en même temps l'original de Rubens. On peut l'enlever avec de l'eau sans endommager la toile puisqu'elle est peinte à l'huile. Ainsi, au lieu d'une copie de Whistler, nous avons un authentique Rubens qui vaut 50 000 $. N'est-ce pas exact, monsieur De La Sape ? La question ne reçut pas de réponse, elle n'en demandait aucune. 1 heure plus tard, quand De La Sape fut sous bonne garde, dans sa cellule, Hatch appela le savant au téléphone et lui posa une question. « Comment avez-vous découvert que l'aquarelle était peinte par-dessus le Rubens ?»« Parce que c'était le seul moyen sûr de dérober le Rubens aux yeux de ceux qui auraient pu le chercher, et au surplus, c'était une excellente solution pour le conserver en parfait état. ne vous avais-je pas dit que de Lesseps était un homme intelligent? Il suffisait de raisonner avec un peu de logique. Deux et deux font quatre, monsieur Hatch, pas seulement de temps à autre, mais toujours. »
Ici se termine le Rubens volé de Jacques Futrelle. Lu par Christiane Johan pour audiocité.net.